Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, avec le chef du service culture de Valeurs Actuelles, Laurent Dandrieux, avec la journaliste indépendante Emmanuel Dancourt et le journaliste RMC Fred Hermel. Dans un instant, on va se poser cette question dont Estelle Midi. Doit-on supprimer les notes à l'école? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. On vous attend également sur l'appli RMC. Il y aura RMC s'engage pour vous. On va revenir sur le cas d'Elisa, notamment une auditrice qui se battait depuis 2 ans pour toucher la pension de reversion de son mari. Elle nous avait beaucoup émus il y a quelques semaines et on a du nouveau dans ce dossier. Et puis on terminera, Rémi, avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
On parlera notamment des magasins, de nos magasins de proximité qui, malgré l'inflation, se portent plutôt bien. En tout cas, ils gardent leurs clients.
Ah, très bien.
Et puis on parlera de Johnny Hallyday. Il n'est plus parmi nous, mais il est toujours là. Je vous expliquerai.
Il est dans notre cœur. Et puis vous ferez gagner de superbes cadeaux sur RMC.
Sur RMC, nous vous offrons avec Total Energy, le sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby 2023, vos places pour le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande ou alors pour une très belle autre affiche. Dès que vous entendrez ça, vous aurez alors 5 minutes pour jouer en envoyant coupe par SMS au 732-16, coupe par SMS au 732-16, et le gagnant sera dévoilé, le nom du gagnant sera dévoilé, lors, je vais y arriver, oui, du Super Moscato Show. Voilà, j'y suis arrivé.
RMC Estelle Midi.
14h03 sur RMC. On va poursuivre Estelle Midi avec la préconisation du jour. Et c'est celle du CNESCO, le Centre National d'Études des Systèmes Scolaires. Il souhaiterait faire disparaître les moyennes et les comparaisons entre élèves. Le but, éviter un surplus de stress chez les ados, Rémi.
Exactement. Et dans ce rapport, le Conseil National d'Évaluation du Système Scolaire nous dit que le système actuel de notation des élèves en France ne fonctionne pas correctement. D'après cette étude, 57% des parents déclarent que leur enfant est stressé avant un contrôle, 45% qu'il perd ses moyens pendant une évaluation et 51% que la restitution des copies est un moment stressant pour lui. Des notes encore régulièrement affichées devant toute la classe, nous dit le rapport. Plus d'un tiers des élèves ont été confrontés au moins une fois dans l'année à l'annonce des résultats des élèves à voix haute devant l'ensemble de leurs camarades. Par ailleurs, les logiciels de gestion scolaire comme Pronote ou Sconnet ont renforcé la concurrence entre les élèves puisque sont indiquées la moins bonne note et la meilleure note, ainsi que la moyenne de classe pour chaque contrôle ou devoir évalué, ce qui renforcerait donc le mal-être de certains, c'est ce que nous dit toujours ce rapport. À l'autre bout de la chaîne, ça c'est intéressant quand même, seuls 26% des enseignants déclarent avoir été bien préparés pour évaluer correctement les élèves. Le Conseil National d'Évaluation du Système Scolaire recommande donc non pas de supprimer les notes, mais d'oublier les moyennes de classe et d'insister davantage sur l'acquisition des compétences et sur la progression des élèves.
Faut-il supprimer les notes à l'école? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16 et je me retourne bien sûr vers Emmanuel Dancourt qui a 4 enfants.
Ouais.
Emmanuel.
Moi, madame.
C'est un sujet qui m'énerve.
Ah bon?
C'est un sujet qui m'énerve parce que autant j'entends pourquoi on veut faire ça, autant ça ne marchera jamais en France. On n'a pas les logiciels dans le cerveau câblés pour ça. J'en parle d'autant plus facilement que j'ai vécu dans un autre système scolaire, dans un autre pays où il n'y avait quasiment pas de notes et ça fonctionnait très bien parce qu'on n'est pas codé comme ça dans certains autres pays. Mais nous en France, moi je serais perdu s'il y avait plus de notes pour savoir où en sont mes enfants. Je serais complètement perdu et on serait d'autant plus perdu que tout ce qu'on a mis en place en France est sur le système de la notation. Par exemple, mes jumeaux sont en première. Il y a Parcoursup qui arrive l'année prochaine. Parcoursup, on vous fait faire des lettres de motivation qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Envoyer des recettes de cuisine à la place. Par contre, tout est sur les notes. Donc, faut arrêter de nous faire croire que le système des notes, ça défavorise des élèves. Je comprends qu'il y a des élèves que ça déstabilise. Mais mes petits chouchous, je vais vous le dire, la vie, elle est dure derrière. Vous allez arriver dans le monde professionnel et vous allez être jugé en permanence et vous allez devoir vous battre en permanence. Et si on vous l'apprend pas déjà au collège et au lycée, pardon, mais c'est la vérité. Mais vous allez arriver dans la vie professionnelle, vous allez être démunis, mes petits chouchous. Donc voilà, je voudrais le dire. Et puis après, faut arrêter de nous faire croire qu'on veut enlever le système de notation. Effectivement, quand tu regardes Pronote, t'as la moyenne de la classe. À partir de la première, ça ne veut plus rien dire, puisqu'il n'y a pas un gamin qui a la même spécialité, les mêmes options. Donc t'en as compris art plastique, non, ou tu topes à 19 ou à 20 facilement.
Il y a la moyenne de la classe à chaque évaluation.
Oui, mais ça veut plus rien dire cette moyenne de la classe. Après, ouais. t'as la moyenne la plus haute, la moyenne la plus basse. Donc
moi, par exemple, mon fils, il a le rang des élèves. Donc, il sait, par exemple, que sur une disserte, il sait s'il est troisième ou s'il est 25e.
Le fait que les profs rendent par ordre de classement ou disent à voix haute les notes, ça. Alors, moi, j'adorais ça parce que je te fais. Mais c'est très, très dur.
Je voulais ta dernière note.
Mais évidemment, moi aussi.
Plus le temps passé, mais c'est
parce que. Estelle, toi et moi, on est compétitives. Mais pour les gamins qui sont pas là-dedans.
Tu t'ajoutes, fais moins. C'est incroyable. Cette surprise.
Comment ça, j'ai encore 19 à ma dissertation de philo.
En plus, pour les jumeaux, c'est pratique parce que ça permet de les différencier l'un de l'autre. Oui, t'es celui qui a une mauvaise note.
Non, mais c'est terrible.
C'est
pour les jumeaux. Pour les jumeaux, c'est terrible. Hein, mais bon.
Laurent Dandrieux, est-ce que si on faisait disparaître les notes à l'école, ce serait un nivellement par le bas?
Je suis persuadé de ça. C'est effectivement, pour moi, la disparition des notes, c'est la disparition de la culture de l'exigence, de la culture de l'excellence. Et c'est la disparition aussi d'un baromètre qui vous permet concrètement de mesurer vos éventuels progrès. Oui, mais moi, je vais prendre mon exemple. J'étais plutôt bon en classe, mais très mauvais en mathématiques. Voilà. Et puis, j'ai pris des cours de rattrapage avec un membre de ma famille. Et puis, si j'avais pas eu les notes pour me permettre de mesurer que ces cours étaient efficaces, parce que effectivement, mes notes progressait, j'aurais été dans le flou. Donc ça m'a été extrêmement utile. Après, je suis moi très énervé par le chouinage de ces générations qui ne supportent plus rien. Oh là là, il y a du stress. Bah oui, il y a du stress, effectivement, c'est la vie. Et nous, on l'a subi, ce stress, dans nos générations. On n'en est pas mort.
Enfin, c'est pas parce qu'on a subi quelque chose que les autres ont subi la même chose.
Le stress, ça fait partie de l'existence. Et l'éducation, c'est aussi une éducation à la gestion du stress. Si vous n'apprenez pas à gérer le stress quand vous êtes à l'école, quand est-ce que vous allez apprendre? C'est pas à 22 ans que vous allez apprendre, ce sera un peu tard. Et puis en plus, je trouve cette dénonciation du stress des notes d'autant plus déplacée qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les notes qui sont données sont souvent des fausses notes. C'est-à-dire que le système est complètement bidon parce que les notes sont surcotées régulièrement parce qu'on dit, attention, là, c'est trop bas, on voudra pas, la France va être mal classée dans tel ou tel classement, donc on va rajouter 3 points à tout le monde. Les notes sont des notes fictives très souvent qui ne sont pas des notes sincères. Moi, je pense que non seulement il faut maintenir le système de notation, mais il faut le rendre plus sévère dans la mesure où il faut le rendre réel. C'est-à-dire qu'il faut que les notes soient des vraies notes.
Est-ce qu'on en fait trop pour le bien-être des élèves, selon vous, Fred Hermel?
C'est une bonne question, oui. Oui, parce qu'en fait, c'est pas leur bien-être. C'est toujours de bonnes intentions.
Si t'empêches le stress, c'est pas
oui,
mal.
Mais, non, mais le problème, c'est
qu'il y a peut-être d'autres moyens.
Oui, c'est on prépare les gens à la vie, quoi. Et la vie, et vous avez remarqué, on
n'a jamais. C'est pas que du stress.
Mais aujourd'hui, on n'a jamais demandé autant aux gens de noter. C'est-à-dire, t'appelles la Sécu, on te demande après de noter.
Ah oui, c'est vrai.
Tu commandes à manger, on te demande de noter. Tu montes dans un avion, on te demande de noter. Non, mais je veux dire, c'est tout le temps. Moi, ça m'énerve. L'évaluation permanente m'énerve. Non, moi, ce sujet me passionne. D'accord. Parce que je pense ce qu'il y a derrière. Attention, vous allez hurler, mais je pense que la disparition des notes serait une mesure profondément antisociale. Parce que je pense que les notes est quelque chose qui permet aux gens des classes populaires de se rendre compte qu'elles peuvent battre les bourgeois. Je le suis vraiment persuadé. Je vois mon cas. Moi, je viens d'une famille normale, plutôt populaire, d'un petit village, etc. Quand je suis arrivé au lycée du centre-ville d'Arras, avec les fils de députés socialistes, il n'y avait pas plus bourgeois que les fils de députés socialistes. J'étais con, je votais pour eux après, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est...
Bon, bref.
Des fils de médecins, etc., etc., qui étaient vraiment des bourgeois, etc. Je ne me suis jamais senti complexé par rapport à ces gens parce que j'avais des meilleures notes qu'eux. Et donc, si j'ai réussi dans la vie, je pense que j'ai réussi dans la vie. C'est aussi parce qu'à l'école, avec mes bonnes notes, je savais que je pouvais être meilleur que des gens qui, a priori, étaient d'un niveau social plus élevé.
Tu pouvais aussi être meilleur au foot, meilleur au tennis.
Moi, j'étais pas meilleur au foot. Moi, j'étais nul au foot. Mais moi, j'avais de bonnes notes. Et en français, j'étais le meilleur. Et j'ai celui qui déclamait le mieux les poèmes, qui faisait les plus belles rédactions. Bah oui. Mais ça m'a vachement servi. Je n'ai jamais été complexé par rapport à mes
notes. Et donc, si t'avais pas une note, t'aurais été complexé.
Peut-être. Peut-être parce que je n'aurais pas eu la preuve que je pouvais être meilleur qu'eux. Et ça compte. Je voudrais dire un petit truc, vraiment un truc très important. Ma mère nous écoute. Pronote, c'est terrible pour les gamins parce que nous, on pouvait trafiquer. On pouvait trafiquer les bulletins, imiter la signature.
Bravo.
Maintenant, avec Pronote, c'est fini.
Belle mentalité.
Pour les enfants, c'est terrible.
Oui, mais en fait, ça enlève du stress aux gamins. Parce qu'avant, t'étais obligé d'aller voir tes parents et tu disais, maman, j'ai un truc à te dire. Et t'étais hyper en stress. Aujourd'hui, les mômes, ils savent qu'en fait, toi, parent, tu vas recevoir une petite notice sur ton téléphone. Et tu vas avoir la note. Donc, ils sont plus obligés de nous la dire. Ils savent que de toute façon, on va la recevoir. Et donc, finalement.
T'as jamais trafiqué une note sur un bulletin?
Mais ça, j'avais pas besoin.
Je mets des colis qui reculaient là.
Excuse-moi, mais moi, j'avais pas besoin de trafiquer.
Laurent, pour tes notes de maths.
Juste, moi, j'ai une question pour
regardes sur le bulletin de ton fils, honnêtement. Tu sais, t'as les notes, puis t'as les compétences. Oui. Moi, je regarde jamais les compétences. Ils le font depuis des années. Tu regardes, toi, les compétences. Ah, t'as pas ça, c'est des couleurs vertes, jaunes et rouges.
Il est en première.
Moi aussi, c'est en première. Mais ils ont, il y a les compétences.
Il est compétent en gommette.
Voilà. Enfin, ça me dit rien. Alors, je n'ai pas reçu ce mail, mais enfin. Rémi Barré, vous avez plein de messages sur l'appli RMC.
Allez, j'ai ce message de Emeric qui nous dit « Bonjour, après il ne faudra pas se plaindre qu'on arrive à des adultes fragiles qui pleurnichent à la première réflexion. Bonne journée. »
C'est vrai.
Ouais. Et j'ai ce message aussi de Miglou qui nous dit « Estelle, oui. Je peux vous donner un conseil, ma fille ne fout rien, elle va très bien, en pleine forme, le petit de 6 ans prend le même chemin, tout va bien à la maison. »
Oui, donc il ne regarde pas trop les notes manifestations, il s'en fout.
C'est l'éducation cocooning.
Oui, mais quelque part, il a aussi bien raison. Et vous avez quand même plein de gens qui ont des notes désastreuses à l'école et qui font une grande carrière.
Ah bien sûr.
Donc, il faut aussi dire que les notes, ça ne fait pas tout. Oui. Voilà, c'est l'orientation mais aussi qui fait tout.
Jean-Paul Brighelli, qui est un grand défenseur du système de notation, dit que la note est nécessaire à condition de ne pas réduire l'élève à sa note. La note n'est pas l'élève, évidemment.
Et vous avez forcément une matière dans laquelle vous êtes bon. Ça peut être le sport, la musique, les maths, le français, n'importe. Mais il y a toujours une matière dans laquelle on n'est pas dernier.
Mais quand tu prends des 6, des 7, des 5 que je comprenais en maths, après que tu avais 19 en rédac, et ben voilà, ça compensait. Ben voilà. C'est à te regonfler.
Après, il y a les coefs, hein, mais bon.
On est avec André Tricot. C'est le directeur du Cenesco qui a produit l'étude dont a parlé Rémi, le Centre National d'Études des Systèmes Scolaires. Bonjour André Tricot.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a lu attentivement votre étude. Vous ne dites pas, bien sûr, qu'il faut supprimer les notes, mais vous dites qu'il faut supprimer les moyennes et les comparaisons entre élèves. Finalement, ça aboutirait à quoi s'il n'y avait plus de comparaison entre élèves? Si, par exemple, nous, parents, on recevait la note brute sans comparaison, sans moyenne. Vous ne trouvez pas que ce serait finalement pénalisant pour les parents et les élèves de ne pas pouvoir se situer?
En fait, c'est simplement de dire que dans l'éducation, il est important à certains moments de se comparer, à certains moments de pouvoir dire à un élève, ce diplôme, tu l'as obtenu ou tu l'as pas obtenu, ce concours, tu l'as réussi ou tu l'as pas réussi, tu es bien classé ou t'es pas bien classé. Bien entendu, c'est absolument fondamental de faire ça, mais c'est simplement de dire, il y a d'autres moments, on est dans la classe avec les élèves, on est en train d'enseigner, les élèves sont en train d'apprendre et... L'idée, c'est simplement dire, il y a des moments où les élèves ils sont là pour apprendre, ils ne sont pas là pour se comparer. Il y a des c'est tout. Et ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont en train d'apprendre, il faut arrêter de les évaluer. Il y a des recherches depuis une trentaine d'années qui montrent qu'une des meilleures façons d'apprendre, c'est d'être évalué et d'avoir un retour sur qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, pourquoi et quoi faire mieux la prochaine fois. Et ça ne nécessite pas forcément une note, mais c'est de l'évaluation.
Mais vous croyez pas quand même que pour beaucoup d'élèves, si par exemple vous avez un contrôle de géographie, si vous savez que vous avez une note, bon bah vous allez essayer quand même d'apprendre la carte de France qu'il faut apprendre pour le lendemain. S'il y a pas de note, c'est juste une évaluation. Vous n'avez pas peur que finalement les élèves n'apprennent rien parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas sanctionnés. C'est un peu la carotte et le bâton, quoi.
Tout à fait. Dans les pays dans lesquels il y a des notes, comme la France, c'est une des conséquences d'avoir un système de notes très présent. C'est que ça devient, pour certains élèves, hein, pas pour tous, on ne peut pas généraliser, mais ça devient la carotte. Et ce qu'on constate, c'est que dans des pays dans lesquels il n'y a pas de notes, ou le cas de l'Australie, je connais bien, où les premières notes qu'ils ont, c'est à l'arrivée au lycée, quand il n'y a pas de notes, il n'y a pas cette carotte, il y en a d'autres. Et l'autre carotte, ça peut être le plaisir d'apprendre, ça peut être le plaisir de comprendre, ça peut être le plaisir de progresser. Et voilà, c'est simplement, et quand on regarde les comparaisons entre le niveau scolaire des élèves australiens et des élèves français, on regarde l'équité, en fait, on peut avoir un pays dans lequel les élèves réussissent pas mal et dans lequel il n'y a pas trop d'effet de l'origine sociale, puisque vous en parliez, hein, sur les performances des élèves, sans note. Mais le sujet, c'était pas de dire est-ce qu'il faut supprimer les notes ou pas, c'était de dire... Les notes sont très utiles quand il s'agit de donner un diplôme ou de pas le donner. Elles sont très utiles quand on passe un concours, quand il faut classer. Dans le quotidien de la classe, peut-être qu'elles ont une utilité de temps en temps, mais le caractère omniprésent, c'est celui de l'évaluation, pas celui des notes.
Alors restez avec nous André Tricot parce qu'on a pas mal de témoignages et peut-être que vous pourrez réagir. On a celui d'Alexandre tiens, qui nous appelle de Tours-la-Ville et qui va dans votre sens. Alexandre qui est responsable de travaux. Et Alexandre, vous avez souffert des notes hein, durant votre scolarité.
Oui, bonjour à vous. Oui, j'ai un peu souffert des notes parce que c'est ce que je disais au standard. Quand en gros il y a des matières où le critère c'est l'apprentissage, je vais dire l'expression de façon bête et méchante, du genre de l'histoire, la géographie, là qu'il y ait une note, pas de souci, parce que c'est soit on a bon, soit on a faux.
Ouais, ou soit on a appris, soit on n'a pas appris, quoi. Oui.
Voilà, exactement. Par contre, à contrario, des domaines, par exemple, je vais prendre la matière qui est souvent la plus contestée, les mathématiques. Dans les mathématiques, je trouve qu'il serait peut-être plus intelligent et plus malin d'évaluer plutôt le raisonnement de l'élève, même si le résultat est faux.
Mais c'est fait, hein, Alexandre. Aujourd'hui, vous avez une note de raisonnement et une note de résultat. C'est-à-dire que si votre raisonnement est bon, sur un exercice qui vaut 5 points, vous n'aurez jamais zéro. Hein.
Écoutez, moi, je ne sais pas comment sont les écoles où ils établissent ce genre de système-là. Mais moi, j'ai par exemple ma filleule qui a encore des critères par rapport au résultat. Ou par exemple, dans sa copie, elle n'est pas très très bonne en maths. Et bien, si jamais le résultat est bon, on lui retire facile, je ne sais pas, peut-être 3/4 des points.
Et moi, à l'inverse, moi j'ai un fils qui avait tous les résultats de bons dans, je crois que c'est quand il était en quatrième dans une copie de maths, il avait refusé de mettre tout le développement, le résultat machin, il a eu zéro. Alors que tous ses résultats étaient bons, mais comme il n'avait pas mis ses développements, il a fait sa mauvaise tête, il n'avait pas envie de le faire, il a laissé ça sur son brouillon, zéro.
Ouais, il y a plutôt des progrès qui ont été faits en tout cas là-dessus, Alexandre, mais ça dépend peut-être des établissements. André Tricot, faut qu'on aille vers ça justement, c'est-à-dire que en maths notamment, parce que c'est la matière qui pose le plus de problèmes à beaucoup d'élèves, qu'on valorise autant le cheminement que le résultat final.
Ce qui est important surtout, c'est d'être très clair sur les critères avant l'évaluation. Ouais. Et de dire clairement aux élèves, voilà, sur ce prochain devoir, sur lequel vous serez noté, il y a un critère raisonnement, et ce critère, il vaut tant de points. Il y a un critère résultat, et il vaut tant. Tant que c'est clair et précis et donné à l'avance, les élèves savent à quoi s'attendre. Ouais, parce et que c'est... après, c'est leur choix de dire, par exemple, l'exemple que vous avez donné, je choisis de pas mettre mon raisonnement, eh ben ça je l'ai choisi. Mais c'est ça qui est important, c'est les critères et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, le retour. Expliquer pourquoi tu t'es trompé, qu'est-ce qui manquait et surtout, comment faire mieux la prochaine fois.
Non, mais c'est très important ce qu'on vient de dire là, parce que c'est vrai qu'on a tous vécu ça, combien d'élèves ne comprennent pas leurs notes, ne comprennent pas un jour pourquoi ils ont 12, le lendemain.
La prof, elle te l'explique.
Oui, mais enfin, tu sais très bien comment ça se... Oui, mais comprendre vraiment une note, c'est-à-dire qu'au départ, on sait sur quels critères on est évalué. Lorsqu'on reçoit sa note, comprendre pourquoi on a eu autant, c'est important. Et je le rappelle, le Conseil national d'évaluation du système scolaire dit également dans son rapport que seuls 26% des enseignants se déclarent bien préparés pour évaluer leurs élèves. Donc, c'est compliqué de noter. Ah, mais si.
Oui, mais bon. Enfin,
mais ça a une vraie importance.
C'est vraiment des chouilles. Ah, oui, bah,
je mets au pif. Écoute,
non, mais excuse-moi. Enfin, je veux dire.
C'est plutôt bien.
Ils se déclarent, oui, je sais pas.
Enfin, bah, ils ont des manques dans leur formation.
Peut-être un peu de bon sens quand même. Enfin, je sais pas comment noter. Enfin, si t'es prof de maths, je sais pas comment noter. Enfin, je suis désolé. Enfin. Non, mais moi ça me paraît des chouines. Mais à chaque fois, il y a le nombre de à chaque fois, on a pas assez de moyens. Enfin, tu réfléchis deux secondes quand même si tu sais pas. Non, mais excuse-moi.
Vous êtes un peu dur quand même.
Bah, excuse-moi. Bah, enfin, si t'es prof de maths, tu sais pas comment noter tes élèves. Hein, je sais pas.
Mais parce que justement, il y a pas que le résultat qui compte, Fred. Ah, voilà. Oui, c'est ce que disait Alexandre. Merci
pour
en tout cas.
C'est ça. C'est-à-dire, comment je dois noter pour ne pas blesser.
Mais non, c'est pas ça qu'ils te disent. C'est comment tu fais pour être juste. Voilà. Merci, Alexandre, en tout cas, de ce témoignage. Nicolas nous appelle de Valais, en Loire-Atlantique. Et Nicolas, il a deux enfants qui vont à l'école. Bonjour, Nicolas.
Oui. Bonjour tout le monde. Donc, pour revenir à votre débat, je vais être un peu d'accord avec vous, mais je vais apporter un petit bémol, c'est très simple, il faut des notations, par contre il faut que les notes elles soient en corrélation avec le niveau de l'élève, et c'est ce qu'on a perdu depuis des années, et je vais vous prendre deux exemples qui vont vous frapper, entre guillemets, c'est que vous interpeller, c'est que mon enfant est en cinquième, c'est pas un surdoué mon enfant, c'est un élève qui suit bien l'école, etc., peu importe. Et en fait, vous prenez sa moyenne générale, aujourd'hui elle est de 16,5, et vous vous dites, tiens, voyons, il est plutôt bon. Et puis derrière, vous regardez la moyenne générale de la classe, elle est de 15,5. Donc résultat, nous avons eu rendez-vous avec la prof principale, nous lui demandons, bah par contre, on s'interroge, 16,5 et la moyenne, 15,5 la moyenne générale de la classe. Bah, pouvez-vous nous dire quel est le niveau de notre élève, en fait? Puisque sur 30 élèves, vous êtes en train de nous dire, en fait, que il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a pas d'élèves en difficulté. Alors je dis pas mauvaise, que c'est négatif, c'est péjoratif pour un, mais il n'y a pas de mauvais élèves en fait dans cette classe, nous lui demandons. Alors que vous avez tous fait, on a tous été à l'école, sur 30 élèves, c'est impossible qu'il n'y ait pas 8, 10 élèves qui soient en difficulté au niveau scolaire. Et ce n'est pas une honte d'être en difficulté, tous les élèves ne sont pas logés à la même enseigne, tous les élèves n'ont pas la même capacité. Et je vais vous donner un deuxième exemple pour aller vite. Hier, il me dit, oh, j'ai eu le résultat de mon évaluation en français, j'ai eu 20 sur 20. Je lui dis, comment tu peux avoir 20 sur 20 en français? Là, je lui dis, là, faut que tu m'expliques.
Bah, en
il
grammaire, dit, bah, j'ai en pas unité, fait c'est d'erreur, possible.
Du tout. Je lui dis, t'as pas une faute d'orthographe, je lui dis, t'as rien du tout en français dans ta copie qui t'enlève des points. Bah, il me dit, non, visiblement, tout est bon. Bah, donc voilà, la moralité, c'est que les notes, elles ne correspondent à rien. Et je vais terminer ma conclusion. C'est très simple, c'est qu'on met des notes à des élèves, ce qui font qu'ils rentrent dans un cursus, ils vont jusqu'au bac avec des notes. Il n'y a plus de redoublement aujourd'hui en seconde, en première. Il n'y a plus de redoublement. Vous allez au bac sans problème. Vous allez au bout du cursus, même si vous êtes en difficulté. On vous laisse aller jusqu'au bout. Et puis vous avez votre bac aujourd'hui avec une moyenne de 12. Et puis l'élève dit, les parents, ils disent, il a eu son bac, mais aujourd'hui, tout est dévalorisé, le niveau est très faible scolairement, le niveau est de plus en plus bas.
Oui, c'est sûr.
Et c'est la grosse problématique aujourd'hui, c'est que vous avez des enfants qui sont en seconde ou en première, qui ne savent même pas calculer sans une calculatrice, qui ne savent même pas rédiger sans faire 10 fautes d'orthographe dans une phrase. Mais par contre, on les envoie jusqu'au bac au lieu de les orienter vers des cursus bien plus spécialisés, des CAP, d'apprentissage, où il n'y a aucune honte de dire à un élève. Moi, je suis prêt à entendre une prof me dire votre élève, il est en difficulté, il serait peut-être mieux dans un cursus manuel.
Tout à fait. Ouais, mais malheureusement, il y a peu de parents qui sont capables de l'entendre. Bravo, merci à vous, en tout cas, Nicolas, pour ce coup de gueule. J'aimerais qu'on entende Jérôme. Il nous appelle des Pennes Mirabeau dans les Bouches du Rhône. Et Jérôme, il est professeur. Donc ça, c'est intéressant. Jérôme, en tant que prof, vous voulez les supprimer, ces notes, ou elles sont hyper importantes?
Alors, bonjour à tout le monde, d'abord.
Bonjour, Jérôme.
Moi, le débat, il m'intéresse vraiment beaucoup. Excusez-moi, j'ai une petite extinction de voix là, depuis quelques jours.
Parce que
ça me tient beaucoup à cœur, parce que les notes, j'en peux plus. Depuis des années, je me bats, j'insiste auprès de mes élèves, de mes parents d'élèves, de ma hiérarchie de temps en temps, pour supprimer les notes, tout à fait. Parce que il va falloir qu'un jour ou l'autre, quand même, on m'explique à quoi ça sert réellement les notes. On parlait tout à l'heure de mettre de la pression, etc., sur certains élèves. Moi, par exemple, je leur explique tous les ans, début d'année. Alors, je suis professeur en collège et accessoirement, j'interviens depuis 10-12 ans à l'IUT aussi à Marseille. Donc, j'ai des petits et j'ai des grands. Mais la majeure partie de la semaine, je suis en collège. L'idée, à quoi ça sert les notes, c'est vraiment... Les notes, pour moi, c'est un instantané. C'est vraiment le jour du contrôle. Qu'est-ce que je sais faire? Alors, il y a des élèves qui vont réviser comme des fous parce qu'ils ont un contrôle. Et puis, on a tous vécu ça, et depuis toujours, un mois ou 15 jours, de faire quelques jours, un mois, 6 mois plus tard, on a déjà tout oublié parce que le contrôle, il est passé. Oui. Et ça y est, on sait déjà plus faire. Bon, alors que, bon, moi, étant prof de maths, en plus en maths, je pense que c'est peut-être encore plus marqué que dans d'autres disciplines. Si on apprend à faire des choses, c'est pour une seule et unique raison. C'est pouvoir le réutiliser, le réinvestir le jour où on en a besoin. Moi, s'il y a un mot que j'utilise en permanence, c'est que je leur dis, j'essaye de mettre à votre disposition des outils dont vous aurez besoin plus tard.
Moi, j'ai jamais réutilisé Pythagore, hein,
Et Thalès non plus, d'ailleurs, pendant qu'on y est. D'ailleurs, les intégrales non plus.
Et quand je m'y suis remise, je peux vous dire que je suis allée regarder sur Internet et parce que j'avais eu quelques oublis et j'avais vraiment honte.
Peut-être, mais alors, ça dépend de ce qu'on va faire plus tard, parce que on donne encore, le système actuel, alors après, on pourra revenir sur le collège unique si on a envie, mais ça, c'est un autre débat.
Oui.
Mais aujourd'hui, c'est deux formations générales, communes, qui doivent les amener le plus haut possible à ce bac, et qu'on leur fait de plus en plus cadeau de toute façon. C'était, tout dépend du cursus que vous allez faire. Vous n'avez pas besoin d'intégrale, etc. Il y en a certains qui, dans leurs études ou dans leur boulot plus tard, en auront besoin. On a besoin Pythagore au collège, ce bon vieux Pythagore. Moi, comme je leur explique de temps en temps, parce que j'ai tendance aussi à leur parler un peu de d'autres choses, et surtout de la vie de tous les jours. Le jour où il a fallu que j'ai fait construire une maison où j'ai installé ma cuisine, c'est un collègue qui est venu me m'aider, et si j'étais vraiment pas prof de maths ce jour-là, j'étais bricoleur ce jour-là, avant d'installer le plan de travail qui pesait un an de mort, d'abord vérifier si les angles de la cuisine étaient bien de terre, on a pris vite trois mesures, et c'est le collègue qui est pas lui du tout prof de maths, qui me dit, attends, avant d'amener la planche, le plan de travail, on va vérifier s'il y a bien un angle droit. Ce jour-là, je suis surtout pas allé chercher mon équerre dans le cartable. Juste, il a pris deux mesures sur les murs, il a regardé en travers.
Oui,
il a regardé, il y a 30 à 40
ans.
C'est bon, c'est l'angle droit. Donc, Pythagore, ça peut servir dans la vie de tous les jours.
Oui, non, mais j'entends, c'est pas non plus, la vie de tous les jours. Mais Jérôme, vous, c'est-à-dire que, là, pour être assez rapide, je comprends votre point de vue, mais qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de notes, en fait? On les remplace par quoi?
Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a d'autres, déjà, moi, la première chose, c'est que, par exemple, ça fait, donc, effectivement, c'est au collège des Pays de Mirabeau, on est un des deux seuls collèges des Bouches-du-Rhône à avoir ce qu'on appelle une section internationale,
un collège public.
Donc, une section internationale, c'est des gamins qui viennent de partout dans le monde, parce qu'ils ont vécu à l'étranger, parce que les parents sont étrangers, ils viennent travailler en France, et donc, en fait, ils arrivent au collège, ils ont souvent commencé leur scolarité ailleurs, et donc, effectivement, on brasse un petit peu tous les systèmes scolaires du monde entier. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en France, on est vraiment, vraiment pas bon,
mais ça, c'est... Mais qu'est-ce qu'on fait, Jérôme?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, comme on le fait dans certains pays, dès le plus jeune âge, alors tout à l'heure, on parlait des mentalités...
Oui, qu'est-ce qu'on fait, Jérôme? J'ai pas le temps.
Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on apprend pour apprendre, et puis un point, c'est tout. Et
ah ben bah oui, mais
on n'évalue même pas. Ok.
Ben, on évalue, on peut évaluer, mais sans mettre de notes. On évalue
en disant, bon, ben voilà,
tel point, c'est compliqué. Moi, j'ai eu le droit de le faire pendant un an et demi.
Oui, mais si vous mettez des couleurs, ça veut dire, en fait, tout est note, en fait.
Oui, mais,
si vous mettez une appréciation, c'est une note, une couleur, c'est une note.
Non, mais on vous met 12. D'accord, c'est bien, j'ai eu 12. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 12 points que j'ai dépris, mais il y en a 8 sur les dépris.
Non, mais ça veut dire que j'ai... Ça veut dire qu'on vous met 12 alors que peut-être il y a 2 mois avant, vous avez mis 10. Donc, c'est un moyen de mesurer aussi que vous avez progressé. C'est un moyen de vous redonner confiance.
Et on vous met 12, et si vous êtes le meilleur de la classe, ça veut dire qu'a priori, vous êtes plutôt pas mal. Et peut-être que le prof note sévère, vous voyez?
Non, je suis pas d'accord. Parce qu'au sein d'une évaluation, on va vérifier si telle chose, est-ce que ça, tu le maîtrises, est-ce que tu sais le faire? Ça, c'est bon, tu sais faire.
Ça,
par contre, t'as perdu des points ailleurs, etc. Donc, tout à l'heure, vous parlez d'avoir des compétences, etc. Moi, j'ai pas été formé pour ça, mais je l'ai fait pendant un an et demi.
D'accord.
J'ai mis une grille à mes élèves avec tout ce que vous devez savoir faire à la fin de l'année, aussi bien savoir scolaire que savoir faire des raisonnements. Et à chaque évaluation, j'avais en tête avec, dans cette évaluation, on va regarder si tu sais extraire les bonnes informations ou dénoncer, si tu sais additionner deux façons,
les compétences.
Si tu sais faire, voilà. Et à chaque fois, bon, ben, ça, je sais faire, ça, je sais faire. Là, par contre, ça, c'est en difficulté.
Okay. Bon, et
ben,
ça marchait.
C'est ce point-là qu'il va falloir retravailler. Ben oui, ça marchait. Parce qu'en plus, ils n'ont pas la pression de se dire quelle note je vais avoir, etc. Les parents savent aussi qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est maîtrisé. Et tout au long de l'année, il y a suivi parce que ces compétences, elles reviennent systématiquement tout au long de l'année. Donc, qu'est-ce qui reste vert tout au long de l'année? Qu'est-ce qu'on sait faire? Ou alors, c'était rouge au début d'année, ça devient vert à la fin, on a gagné.
Voilà.
Et donc, voilà. Mais c'est 100 fois mieux.
Voilà. Très bien. Merci Jérôme, c'était votre point de vue. Jérôme, il aurait une bonne note en élocution.
Il est convaincu. Hein,
il est convaincu et convaincant.
Du tout. Moi, je le trouve absolument pas convaincant parce que. Non, mais alors, on a le temps.
Non, mais Laurent note sévère. Laurent note très sévère.
On va remercier notre invité sur ce débat, André Tricot, le directeur du Sénesco. On va voir si vous avez été convaincu par notre dernier auditeur, Jérôme, et par André Tricot. Laurent Dondriot dit que non, il n'a pas été convaincu. Est-ce que c'est également le point de vue de nos auditeurs, Rémi?
Non, mais c'est une très bonne note pour Laurent Dondriot, puisque c'est le non qui l'emporte massivement pour 80% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux.
Bravo. Pour ça en France,
les gens plébiscitent les notes.
Voilà. Les gens plébiscitent les notes, mais surtout ceux qui en ont des bonnes, évidemment.
Voilà.
C'est toujours plus simple. Dans un instant, elle va avoir une excellente note. C'est Johanna Chabas. RMC s'engage pour vous. On a du nouveau sur le cas d'Elisa. C'est une auditrice qui se battait depuis 2 ans pour obtenir la pension de reversion de son mari. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h34, vous êtes sur RMC, RMC Story, et à 14h34, on vous aide dans Estelle Midi. Voici RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Avec aujourd'hui Johanna Chabas. Et Johanna, vous nous donnez des nouvelles d'Elisa. Elle se battait depuis 2 ans pour faire valoir ses droits auprès de l'assurance retraite et elle nous avait énormément ému il y a quelques semaines.
Oui, son histoire est très très émouvante. Elisa, elle a perdu son mari il y a 2 ans. Agostino est mort en avril 2021 des suites du Covid à l'âge de 64 ans, juste avant de prendre sa retraite. Il n'a jamais pu profiter de la pension pour laquelle il a cotisé toute sa vie. Sa veuve, Elisa, a donc le droit à une pension de réversion, une partie de cette retraite jamais touchée, sauf que tout était bloqué à cause de son numéro de sécurité sociale, ou plutôt ses 2 numéros. Et oui, normalement c'est impossible, mais dans de rares cas, des étrangers arrivés en France dans les années 70 se sont retrouvés avec 2 immatriculations au moment de leur inscription à la sécurité sociale. C'est ce qui est arrivé à Elisa. Depuis notre intervention, ça avance. L'assurance retraite a fusionné ces 2 numéros en un seul. Elisa a donc reçu tout ce que l'État lui devait depuis 2021, soit 3 600 euros quand même. Super. Et désormais, cette femme de ménage aux petits revenus touchera sa pension de réversion de 180 euros tous les mois. C'est sa fille Sandra qui nous a donné des nouvelles, car c'est elle qui s'occupe des démarches pour sa mère.
Ça va faire 2 ans que mon père est parti, et c'est douloureux, c'est des épreuves, et en fait, on peut pas penser à la personne, on pense aux formalités administratives. Et donc là aussi, on pense à lui tout simplement, et c'est grâce à lui, à ses années de travail, que voilà, ma mère aujourd'hui a le droit à cette partie. Mais voilà, c'est tout ce qui nous reste, hein, en fait.
Ça veut dire que tout est réglé pour Elisa et sa fille ?
Alors, pas totalement, parce que comme vous l'avez compris, pendant des années, Elisa, elle a cotisé sous deux numéros de sécurité sociale différents. Donc, au moment de partir à la retraite, ça pourrait encore cafouiller, il pourrait lui manquer des trimestres. Nous avons donc rappelé l'assurance retraite. Elle nous assure qu'aujourd'hui, c'est bon. Ah. Toutes les années de travail d'Elisa ont bien été comptabilisées sous une seule immatriculation. Mais c'est pas fini, parce que maintenant, Elisa, avec l'aide de sa fille, doit mettre tous ses papiers à jour.
Tout est inscrit sous l'autre numéro, son compte Amélie, enfin la mutuelle, etc. Donc maintenant, il va falloir recontacter tout le monde. Les employeurs, c'est pareil pour qu'ils commencent donc à faire les déclarations sous le bon numéro. Il y a toutes ces démarches-là que je dois maintenant entreprendre. Maintenant que je sais que ça a été mis en place avec la CNAV, on s'attaque aux autres.
Et l'assurance retraite nous a assuré qu'elle serait toujours là pour aider la famille dans ses démarches. D'ailleurs, grâce à nous, Sandra a un contact direct chez eux, ce qui quand même facilite.
Vous me le donnez, on ne sait jamais.
Je le garde à mon portable. C'est une denrée rare, les contacts directs. En échange de bonbons, je veux bien le passer. Et évidemment, nous aussi, on va évidemment continuer à l'accompagner.
Bah, bravo, Johanna, c'est encore un succès pour toutes les équipes. DRMC s'engage pour nous et on est très très heureux pour Elisa et sa fille. On parle de quoi lundi, Johanna ?
Alors lundi, on ouvre un petit peu un débat. Vous savez, c'est la Convention citoyenne sur la fin de vie. Ouais, et en fait, il y a des projets qui existent de maisons de fin de vie. C'est là où on pourrait avoir des soins palliatifs. D'accord. C'est des projets qui existent, mais qui sont pour l'instant bloqués par l'État, qui n'a pas mis en place un cadre juridique. Donc, on vous parle de tout ça lundi.
Eh ben super, merci beaucoup, Johanna Chabas. Et bon week-end à vous. Et puis, si vous voulez réécouter, RMC s'engage pour vous. Eh bien, vous allez sur rmc.fr, sur l'appli RMC ou sur vos applis de téléchargement. Dans un instant, il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On a quoi, Rémi ?
On va notamment parler de vos magasins de proximité. Il y a la hausse des prix, notamment dans l'alimentaire, mais il continue à bien fonctionner. Et on va parler de Johnny Hallyday, qui lui aussi continue à bien fonctionner.
Il est décédé, Rémi.
Je sais, mais il continue à bien fonctionner.
Bon, bah écoutez, on en parlera dans
un instant. Je vais t'expliquer.
À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h42 sur RMC, RMC Story. C'est la dernière partie d'Estelle Midi. Et dans cette dernière partie, on vous donne les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et il y a du lourd aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et Rémi Barré, nous allons commencer avec le chiffre du jour.
Le chiffre du jour, c'est 6,2%. C'est le taux de grévistes chez les éboueurs à Paris. Si, vous avez bien entendu. Alors que les rues parisiennes sont envahies par des montagnes de poubelles depuis plusieurs jours maintenant, du fait de la grève des éboueurs, on a dépassé les 9000 tonnes hein, quand même de poubelles accumulées. Il se trouve que seuls 6,2% des agents de la direction de la propreté de l'eau de la ville de Paris, dont dépendent les éboueurs, participent au mouvement social, un chiffre confirmé par la mairie.
6% quand même, quand on voit les montagnes de poubelles qui s'amoncellent dans Paris, ça paraît très faible, hein, Laurent Nandrieu.
Surtout, je ne comprends pas très bien comment c'est possible, parce que à la limite...
Bloquent les camions, en fait. Ceux qui sont en grève bloquent les camions.
Oui, mais ceux qui conduisent le camion, ça fait 1 sur 3 quand même. Ça fait
non. Il y a des militants grévistes qui bloquent les camions. Ah, c'est ce que dit la direction
de la propreté.
C'est ce que dit la direction de la propreté sous couvert d'anonymat.
Et par ailleurs, je crois qu'ils bloquent aussi les centres de retraitement des déchets. Du coup, les camions qui fonctionneraient n'auraient pas de.
Ça a commencé à être débloqué depuis hier par les forces de l'ordre.
Mais là, on est typiquement, pour moi, dans un dévoiement de la grève. C'est-à-dire que c'est une minorité qui oblige la majorité à faire grève et qui paralyse un système qui ne devrait pas être paralysé si la proportionnalité était respectée.
Ça veut dire que les 94% des boueurs qui ne voulaient pas faire grève, ils la font de manière forcée.
Non, pas forcément.
Ils s'arrangent entre eux en fait pour faire une grève.
Pas forcément. Comme ça leur coûte moins cher.
Est-ce qu'ils sont payés ou pas?
Ah ben non,
comme ils tournent, il y a un minimum qui tourne pour bloquer le.
Du coup, c'est un peu de l'escroquerie, excusez-moi.
Ah mais c'est l'escroquerie, là-dessus.
De toute façon, les poubelles vont être ramassées.
Les
températures qui se réchauffent, ça commence à devenir.
Oui, enfin, on n'est pas non plus à 30 degrés.
Non, mais ça se réchauffe et donc du coup, d'un point de vue sanitaire, ça devient de plus en plus préoccupant.
Vous avez déjà vu, parce que moi, je suis pas mal baladé dans Paris, j'ai pas vu un rat.
Ah bon, j'en ai vu. Hein.
Je dis pas qu'il y en a pas, mais je n'en ai pas vu.
J'ai vu beaucoup. Moi,
ouais, bah, s'il est mort.
Bah oui, bah, même les rats ne survivent pas, ne survivent pas au bordel qu'il y a, t'imagines.
L'immortel du jour.
L'immortel, du jour. Oui. Là, tu me perds un petit peu. Ah si, 5 ans après sa disparition. C'est lui, l'immortel. Johnny Hallyday conserve une place de choix parmi les artistes les plus achetés et les plus écoutés en France en 2022.
Oh, c'est formidable.
Selon les chiffres dévoilés par le syndicat national de l'édition phonographique, il est à la 16e place du classement. Derrière Jules, Nino, Orelsan, PNL, L'Homme Pâle, mais devant Stromae.
C'est une bonne nouvelle, Fred Hermel.
Ah oui, surtout quand on voit ceux qui sont devant.
Oh bah tu les connais même. Attends,
non, à part Orelsan, les autres je les connais pas. Donc,
d'accord, ben bah, voilà, donc comment bah, tu
voilà,
peux juger
ça, bah, voilà, non, mais, voilà. Et, non, mais moi je trouve ça très bien parce que bah, ce sont très belles chansons. C'est-à-dire que voilà, ce sont des chansons qui ne sont pas des chansons d'un instant, c'est pas des tubes éphémères. Ce sont de vraies belles chansons.
Dans 30 ans, on écoutera Jules et on dira ce ne sont pas les tubes d'un instant.
Oui, enfin, je sais pas, mais enfin, les chansons,
moins
sûr.
C'est moins sûr.
Enfin, quand on voit les gens qui ont écrit pour Johnny, par exemple, l'album écrit par Michel Berger est une pure merveille de la chanson française. C'est dans l'histoire de la chanson française.
Oui.
Donc, moi, je me réjouis. Et ce qui est génial quand on est un artiste et qu'on laisse quelque chose, et que Johnny, qui a travaillé avec les plus grands auteurs, les plus grands compositeurs français qui ont fait des magnifiques chansons, c'est normal que ces chansons restent. Et ça prouve que les Français ont encore du bon goût.
Je m'étonne s'il n'y a pas Michel Sardou dans ce classement. Mais enfin, voilà. Vous écoutez encore du Johnny ou pas, Emmanuel Dancourt?
Pas forcément, si ce n'est les chansons faites par Michel Berger, je suis d'accord, ou par Goldman aussi.
Ah oui,
mais alors je suis très étonnée par le classement, parce qu'on n'a que des rappeurs, et pouf, on a Johnny en cinquième position, avant Stromae. Il est très étonnant.
Il n'y a que des hommes.
Il n'y a que des hommes. Ouais. J'ai envie de savoir quelle est la moyenne d'âge de ceux qui ont voté, parce que il y a quand même. J'ai fait
Jules. C'est sur les plateformes d'écoute,
c'est téléchargement.
Donc déjà, ça exclut à peu près une bonne partie des gens qui ont au-dessus, enfin, grosso modo, l'âge de mes parents, quoi. Qui jamais vont aller sur les plateformes d'écoute parce qu'ils écoutent leur vieux disque.
C'est
ça qui est fou.
C'est le classement des artistes c'est les plus achetés et les plus écoutés.
Donc, ça veut dire que Johnny est écouté par les jeunes.
Il y a aussi,
ça veut dire ça.
Il y a pas mal de trentenaires ou plus âgés qui se sont mis à écouter la musique sur les applications.
Qu'ont connu Johnny vivant, oui. Ok.
Enfin, non, mais
je trouve très étonnant ce classement.
J'ai 46 ans et je suis sur une appli de téléchargement.
Moi, je trouve que c'était Goldman. La personnalité préférée des Français, c'est Goldman, et ça se retrouve pas dans un classement de disques. C'est étonnant quand même.
Bah écoutez, je ne sais pas. Ça vous étonne ce classement ou pas, Laurent Andrieux?
Non, ça m'étonne pas parce que d'abord sa disparition, on est quand même pas si vieille qu'il ait disparu des mémoires. Et en plus, c'est vrai que dans un contexte, moi je suis pas très Johnny, je suis plutôt Beatles, mais dans un contexte où il y a quand même une standardisation de la musique où tout le monde écoute de la musique plus ou moins américanisée, je trouve que c'est rassurant de voir que Johnny incarne la pérennité d'une certaine chanson à la française. Voilà.
Mais c'est vrai qu'il y a pas de chanteuse. Dans ce classement, Clara Luciani, par exemple.
Ouais, la première, je crois, si je me trompe pas de mémoire, mais c'est la 24e place et c'est Angèle.
24e place, c'est terrible ce que vous dites.
Bon, on sait que les femmes vendent moins que les hommes, on le sait. Et dans les concours de chant, ils préfèrent que ce soit un garçon qui gagne plutôt qu'une femme parce qu'ils savent qu'ils vendront plus.
La bonne nouvelle du jour, Rémi.
Malgré l'inflation, les Français fréquentent de plus en plus leurs magasins de proximité, une habitude prise pendant la crise du Covid et qui perdure donc malgré l'inflation, qui redonne de l'attrait aux promotions des hypermarchés. Depuis 2019, les bouchers et primeurs de quartier reconquièrent le cœur des consommateurs. Ces petits commerces de bouche ont connu en l'espace de 3 ans un chiffre d'affaires en hausse de 45%.
Et ça, c'est assez dingue, Fred Hermel, parce qu'on se disait, peut-être qu'après le confinement, on va retourner à nos habitudes, c'est-à-dire qu'on va moins faire à manger, on va moins privilégier les bons produits. Surtout que souvent, le boucher de quartier, il est plus cher quand même que le supermarché, mais finalement, on a pris l'habitude du bon goût, quoi.
Oui, du bon goût. Et moi, je cite souvent l'exemple de mon petit village, où, le village d'à côté, il n'y avait plus de boucher, il n'y avait plus de boulanger, et les petits commerces s'installent à nouveau. Donc parce que les
avec
gens
des jeunes en plus.
Et des jeunes génial. Et des jeunes donc voilà parce que on sait très bien que la viande bien coupée bien conseillée par ton boucher qui vous dit ce qu'on attend aussi c'est la valeur ajoutée le conseil. Moi mon boucher je dis j'ai faim qu'est-ce que tu me donnes aujourd'hui. Voilà, il y a ce côté-là aussi qu'on n'a pas avec une viande sous vide.
Bah oui, mais sauf qu'il y a des rayons boucherie dans plein de supermarchés maintenant.
Oui, il y a des rayons. Oui, avec des bouchers. Mais il y a même beaucoup, ça reste quand même sous vide, etc. On parle peu avec un sous vide.
Vous ne parlez pas avec Charal, c'est sûr. Ouais,
non, mais avec Jeanne Charal peut-être, mais pas avec Charal.
Il ne faut pas oublier de retirer l'antivol en plus.
Ah oui, c'est des blagues, tu sais, c'est de l'humour.
Ah ouais.
Et donc, non, mais moi, je trouve ça très bien. Mais de toute façon, on sait très bien que
les hypermarchés des années 70-80, les hyper-hyper, là, c'est la fin. D'ailleurs, il y a des grands groupes, de grands groupes qui ont de gros problèmes financiers à cause de ça. On vise beaucoup plus le petit commerce plus proche. Et moi, je trouve ça très bien. Là aussi, je suis très écologiste. Moi, je suis pour les circuits courts.
Alors moi, je suis complètement dans ce genre de petit commerce, non seulement parce que j'habite dans un village, mais même quand je suis à Dijon, j'essaie de favoriser, c'est dans les petites rues adjacentes, ces petits commerces-là. Et surtout, ça travaille beaucoup en local. Ça travaille beaucoup en local. Ça travaille. Ils essayent pour au moins la moitié de travailler en bio. Alors bien sûr que les grandes surfaces essayent de travailler en local et en bio aussi. Mais moi, je trouve des produits que je ne trouve pas ailleurs. Tu vois, si tu veux des carottes des sables bio absolument succulentes, jamais je trouve ça.
Chez le boucher, t'en trouveras pas.
Non, mais je parle du primeur. On parlait des primeurs et du boucher. Ça, c'est... Bah, je la trouve pas drôle du tout. On parlait des primeurs.
Oui, bah,
la chef est toujours drôle.
Vous énervez pas.
Bah, je comprends pas parce qu'on parlait des primeurs.
Oui. Ça a été dit. Vous cherchez de la carotte des sables. Bref, très bien. Et vous en trouvez chez votre primeur. Bah, écoutez, c'est très bien.
Après, c'est d'autant plus une excellente nouvelle que les supermarchés et les hypermarchés sont ceux qui étranglent le plus les producteurs agricoles. Donc voilà, on peut.
Et puis on achète mieux en fait.
On achète moins surtout.
On achète moins.
Oui, c'est vrai.
Bah oui, parce que t'as pas les promos qui sont là et tu regardes et tu te dis, tiens, est-ce que je vais acheter 4 paquets pour le prix de 3 voilà, là tu t'achètes juste ce qu'il te faut. L'exportation du jour.
Celle de la SNCF, si. Le Parisien a révélé que la compagnie ferroviaire voulait se développer à l'étranger, en Italie plus précisément. Après avoir traversé les Pyrénées pour s'implanter en Espagne, les trains français vont s'exporter de l'autre côté des Alpes. La compagnie ferroviaire française souhaite importer le modèle Ouigo, son offre low cost sur les lignes à grande vitesse Turin-Milan-Rome, Naples et Turin-Venise avec un nom de code, Projet Allegro.
Projet Allegro,
ouais. Ah bah, c'est drôle. France, on a des idées.
Bon courage aux Italiens.
Moi, je trouve ça merveilleux pour le savoir-faire français. Ouais. Mais vraiment, je suis ravi de pouvoir exporter nos grèves à l'étranger. Et ben moi, je trouve ça merveilleux. Bravo. Ça, c'est la France.
J'espère qu'ils vont pas exporter non plus leur système de tarification totalement incompréhensible, parce que franchement, ça, c'est pas une brillante.
Enfin, c'est quand même une bonne nouvelle.
Mais après, on rigole
on va essayer de faire des trains à peu près corrects qui roulent à l'heure. Et puis après, on verra si on peut les vendre à l'étranger.
C'est vrai que c'est un peu étonnant qu'on exporte un truc qui passe que la France fait mieux, quoi. Voilà.
Qui est remboursé. Mais attends, mais qui est financé par l'argent de l'État.
On peut aussi être fier de se dire qu'on va aller faire des bénéfices à l'étranger, etc. Enfin,
je doute bien que ça a fait l'appel d'offres mondial, que ça a été visé, révisé, étudié, machin. C'est nous qui avons été choisir à tondre les cocorico, quoi.
Ah oui, ouais, moi j'aime beaucoup les Italiens, je leur souhaite pas la SNCF.
Voilà.
Oh, mais la SNCF, ça marche très bien. Enfin, évidemment, des fois, t'as des gens qui volent des câbles, etc. Mais enfin, ils y sont pour rien, la SNCF.
Non,
quand t'as des animaux errants,
la SNCF, ça marche pas très bien. C'est jamais à l'heure.
C'est cher, mais ça marche bien.
Ça coûte une blinde. Il y a un système de tarification incompréhensible.
Ah oui,
bon. Non, ça marche pas.
L'application
bien.
Marche pas, on comprend rien.
On va parler de la sieste du jour.
Ah bah oui, c'est aujourd'hui la journée du sommeil. Vous saviez, non?
Vous avez bien dormi, Rémi.
Ouais, non, j'en aurais bien besoin. J'en aurais bien besoin, selon une étude de la Sleep Foundation.
Ça existe.
La Sleep avec deux œufs.
Hein, évidemment, on parle de sommeil.
Il n'est pas dans le même panier.
Si un adulte âgé de 18 à 64 ans a besoin de 7 heures ou plus de sommeil par nuit en moyenne pour être mieux toute la journée, ils ne sont que 63% de ne pas respecter ce temps minimum. Conséquence, 69% des personnes interrogées dans cette étude seraient d'accord pour effectuer de petites siestes durant leur journée de travail, à une condition quand même, que ça ne soit pas pris sur le temps libre. Vous voyez, ça soit compté dans le temps de travail.
D'ailleurs, nous, on a fini notre journée, je vais aller faire la sieste, tiens. Voilà.